Bienvenue sur Double Flash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. C'est un épisode de rentrée puisqu'on est en septembre 2024, début septembre, donc vous avez dû reprendre pour certains le travail, etc. après les vacances. Comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde.
Voilà, j'espère que ça va.
Bah ouais, ça va carrément. Après, moi, je suis pas en vacances, mais je suis quand même déporté. Je suis pas chez moi. Je suis pas dans le studio ou là où je bosse, dans mon bureau. Je suis en mode Corse. C'est plutôt bien, mais bon, c'est un épisode un peu sur la route, quoi, on va dire.
Donc, ouais, nomade.
Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais ça passe.
Ouais, nickel.
Plaisir.
On attaque. Petit sommaire ou tu commences?
Allez, petit sommaire où on va parler évidemment d'IA, mais orienté dev. Est-ce qu'on n'est pas un tournant un peu, on va dire tactique ou stratégique sur le métier de dev avec l'IA? On va parler évidemment de LaraCon, la conférence de Laravel. On va parler de script, on va parler de benchmark ou des outils pour créer soi-même des frameworks. Voilà, ça c'est un petit peu le programme. On attaque tout de suite?
Yes, allez, c'est parti.
Allez, on attaque tout de suite dans le vif du sujet avec, alors on a tous connu l'épopée de Copilot qui est déjà sortie il y a déjà 2 ou 3 ans, je ne sais plus du tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrents qui sont sur le marché. Donc, il y a Super Maven qu'on connaît, il y a même un éditeur qui est complètement dédié qui s'appelle Cursor. Toi, tu as fait le switch de Super Maven et qu'est-ce que tu en penses?
Écoute, alors c'est toi qui m'en as parlé, pour rendre à César. Toi qui m'as dit, ouais, Super Maven, il y en a plein qui ont changé, machin. Moi, j'étais sur Copilot, tu vois, je cherchais pas spécialement à changer ou quoi. Et puis effectivement, alors déjà Cursor, ouais, comme tu dis, en fait, Cursor, je vois pas mal de devs qui en parlent sur Twitter, tout ça, qui font le switch aussi, donc intéressant. Qui viennent même de PHP Storm, qui laissent tomber PHP Storm pour passer sur Cursor. Donc, bon, mis à part que, apparemment, Cursor fait quand même chauffer pas mal le processeur, mais faut pas lancer 18 trucs en même temps parce que ça risque de faire exploser l'ordi. Mais Cursor a l'air pas mal et Super Maven, bah, en fait, j'ai testé, ouais, depuis, ça fait 10 jours, je crois, un truc comme ça. Et c'est assez bluffant, ouais. Assez bluffant par rapport à Copilot. T'as l'impression que Copilot, finalement, c'est vraiment, il est, faut le dire, hein, il est nul par rapport à bête par rapport à Super Maven et vraiment moi Super Maven m'a bluffé et même interloqué sur certains trucs début de semaine. Alors petite, je raconte ma vie un peu. Début de semaine, en fait, je travaille en ce moment sur une maquette à intégrer de Figma à du HTML, hein, vraiment de l'intégration pure. Et en fait, tu sais, tu fais copier-coller des textes, tout ça. Et puis j'arrive sur une liste en fait ULLI, tu vois. Et puis
classique.
Super Maven. Alors, je fais pas de copier-coller du Figma, de la liste, du texte. Enfin, je prends le premier. Et Super Maven me pond la suite, en fait. Mais exactement la bonne. Et là, j'étais... Comment il fait? Comment c'est possible, en fait? Et là, j'étais... Quand même, je me suis quand même posé pas mal de questions. Comment il arrive à trouver le texte qu'il a jamais eu en main, en fait?
Fort.
Donc là...
Fort.
Ouais, alors là ça m'a vraiment... je me suis dit, mais attends, il a accès à tout l'ordi, comment c'est possible en fait? Là, pour le coup, je cherche encore, j'essaie de comprendre, il est assez bluffant, ouais.
Pour le coup, moi, je te confirme, ça fait quasiment deux mois sûr, en tout cas, que je suis sur Super Maven. Et pour le coup, j'ai vraiment vu la différence. L'avantage que j'ai aussi, je pense, c'est que je bosse sur un monorepo où en fait, il y a tout. Et en fait, ce que Super Maven fait, et je pense que Cursor fait la même chose, c'est qu'il vient vraiment indexer toute ta base de données. Et je pense en fait qu'il fait des embeddings de chaque fonction. Et après, en fait, il vient interroger par rapport à toute ta database et par rapport au contexte. Et moi, là où je suis super bluffé, c'est sur les conventions de nommage. En fait, sur comment tu nommes les choses, il a trouvé mon style, en fait. C'est hallucinant. Il a vraiment trouvé mon style d'écriture, de dire, OK, ma fonction, je sais pas, c'est ajouter l'item au panier, machin, bon, les trucs un peu classiques. Mais personnellement, j'essaye d'être assez explicite sur ma convention de nommage. Et il se trouve que bah, quand tu utilises Super Maven, il va te faire exactement la même chose, quoi. Et c'est là où c'est super bluffant. Tu peux, évidemment, tu as un chat aussi. Je ne sais pas si tu as utilisé le chat, mais moi, je suis gros fan, en fait. Pour moi, ça a limite remplacé la doc, quoi. Tu vois, quand je vais aller voir la doc, bah, je lui demande ça parce qu'en fait, il a été entraîné avec la doc. Donc, il va me redonner la doc. Alors, au départ, j'étais un peu sceptique, tu vois. Je fais, attends, moi, je te fais pas confiance. Je te fais pas confiance, je vais quand même regarder la doc. Je te pose la question pour voir, en fait, la pertinence de la réponse qu'il me donnait. Parce que, il faut pas oublier que c'est un LLM, donc potentiellement, il peut avoir des hallucinations. Et il va te dire, avec un aplomb du diable, en mode, non, mais c'est comme ça qu'on fait. Alors que c'est juste impossible, en fait. Mais lui, il te le dit comme si c'était
T'invente des
sur.
fonctions.
Exactement, hein. Des trucs en SQL, des trucs, il m'a sorti des trucs, non, ça n'existe pas. Mais pour le coup, quand même, dans la globalité, c'est plus que bluffant. Moi, je m'en sers énormément maintenant pour faire mes conventions pour écrire mes commits, en fait.
Ah ouais,
C'est
d'accord.
ah ouais, c'est super bien. Et en fait, je mets des petits tags pour savoir en fait dans quel repo je, enfin pas dans quel repo, mais dans quelle app je suis en fait. J'ai un slug par app. Et en fait, bah ma Super Maven, il a compris mon pattern en fait. Et quand il vient mettre le préfixe
D'accord.
de l'appli juste devant, avec la même convention, tout dans c'est ultra ultra bluffant. Donc
Ouais, dans les remplacements aussi, je trouve qu'il est, tu vois, quand il va t'insérer quelque chose dans une ligne, il va te l'insérer au milieu tu vois, du code. Enfin, je trouve qu'il est beaucoup plus efficace au niveau de l'insertion d'éléments dans une ligne de code. Ça, c'est pas mal. Après, moi, j'utilise aussi Biome tu sais, à la place de Prettier pour tout ce qui est JavaScript, tout ça. Et Biome fonctionne bien aussi. Il me fait une correction avec Super Maven. Donc, Super Maven ouvre. Enfin, quand je fais corriger avec Super Maven, il m'ouvre le chat. Et après, Super Maven me répond. Et j'apply. Et puis, ça remplace. Enfin, c'est vraiment assez bluffant et
super fluide.
vraiment
Et
efficace.
pour le
Ouais.
coup, toi, tu utilises quel modèle? Parce que
Bah,
tu sais,
écoute, j'ai pas
tu.
changé de modèle.
Ah,
Je sais pas lequel
ok.
j'ai. Je
Alors,
suis par défaut, je pense.
moi perso, j'utilise Claude
D'accord.
3.5 Sonnet.
OK.
Et ça marche plutôt bien. Il
D'accord.
faut quand même dire qu'il y a un free tier donc qui est gratuit, on peut l'utiliser gratuitement. On a 7 jours gratos, je crois, de test, ou 15 jours de test, je sais plus. Toi qui es là depuis pas longtemps sur Super Maven, c'est combien la période de
J'étais
test?
c'est 30 des... ah c'est 30 jours
30 jours, un mois
trial,
gratos.
mais je suis vite passé au payant en fait
T'avais la
parce que
carte
c'était
bleue
10 dollars
légère.
bah en fait j'ai juste annulé Copilote et puis j'ai mis celui-là et c'est le même prix donc du coup
Ouais,
j'ai
facile.
pas vu la différence
Et donc
mais
10 balles par mois. Personnellement, c'est sans problème. Take my money and shut up, quoi.
Bah, le temps gagné vaut
Non, non,
largement les 10 euros,
c'est
enfin les 10 dollars.
largement, largement, largement
Yes.
intéressant. La suite.
Ah, du coup, attends, on avait une question. Moi,
Attends.
j'avais une question. Hein.
Ok.
J'avais une question sur l'IA. Alors, on va pas débattre pendant tout l'épisode, enfin, pendant 2 heures, parce que je remets le contexte. Tu vois, je suis un peu comme avec l'IA, je remets un contexte. En gros, j'écoutais un podcast sur. C'est Monde Numérique, je crois, il s'appelle. Avec Colombin et il venait sur une news en fait comme quoi le boss d'AWS avait dit à ses développeurs en fait bah, de commencer à se former sur autre chose comme chef de projet etc parce qu'on aurait besoin de moins en moins d'eux dans le futur et forcément bah, les journalistes reprennent ça en disant bah, les développeurs c'est fini enfin ça fait longtemps qu'on entend ça hein. Mais les développeurs c'est fini voilà l'IA va les remplacer etc moi c'est le genre de truc qui me fait assez bondir Après, ça se débat, mais je sais pas ce que t'en penses, toi, mais
Bah,
bah, ton
après,
avis. Parce que l'IA va remplacer les développeurs.
non, en fait, après que ça fasse bondir, si tu veux, c'est toujours la difficulté est de trouver la part de l'idéologie, en fait, ce qu'on a envie, ouais. Tu vois, et le pragmatisme et la réalité. Et c'est dur, en fait, de tomber ni dans l'un ni dans l'autre. Et donc, je vais faire une vraie réponse de Normand. Guest star, je suis Normand. Mais en fait, je pense que la vérité, elle est un peu au milieu, quoi. Est-ce qu'il faut avoir peur? Je pense qu'il faut pas s'en inquiéter. Par contre, il faut travailler avec, ça, c'est clair. Est-ce que ça va nous remplacer ah oui. totalement? Non. Tu vois, est-ce que ça va ouvrir d'autres perspectives? Oui. Est-ce que les devs qui n'utilisent pas l'IA vont être obsolètes sur le marché? Je le pense intimement.
Ah oui.
Ça, je le pense intimement. Par contre, pour moi, il y aura toujours besoin, parce que quand je vois le niveau d'expression, juste d'expression du besoin, il y aura toujours besoin d'un mec pour entendre ça. Et c'est peut-être en ça où le chef de Amazon dit bah en fait ouais, formez-vous en fait chef de projet parce que en fait
le jingle qui s'est lancé.
Ah, désolé Patrick, c'est ma faute. Et pour le coup en fait c'est en ça où le chef de projet de Amazon a complètement raison, parce que il va falloir chercher autre chose comme métier peut-être, mais de là à remplacer tous les devs, moi je n'y crois pas un instant. J'y crois pas. Après, ouais. Peut-être dans un avenir futur, mais...
Peut-être dans 5-10 ans, on ne sait pas. Ça, après, c'est sûr que l'IA évolue tellement vite qu'on ne peut pas prédire. On ne pouvait pas prédire déjà, il y a 2 ans, Super Maven, tu vois, l'efficacité de Super Maven. Mais en fait, j'analyse le truc déjà, c'est que peut-être que par cette lettre qu'il a envoyée aux employés, en fait, il voulait dire qu'aujourd'hui, effectivement, les développeurs, ils utilisent de plus en plus l'IA, donc ils sont plus productifs. Donc peut-être qu'on va embaucher moins de développeurs parce qu'ils sont plus productifs, déjà d'un, et pas forcément les remplacer, tu vois. Donc au lieu d'en avoir 1000, ils en auront peut-être que 500, tu vois, on ne sait pas.
Ouais.
Donc, effectivement, on le voit, on devient quand même plus productif. On a remplacé... avant, on allait chercher sur le net comment je peux faire cette telle fonction, machin. Maintenant, c'est l'IA qui nous... Donc, on gagne du temps. Tu vois, on va moins chercher sur Google les solutions. Clair. Première chose. Ensuite, remplacer les devs. Quand tu dis ça va remplacer les devs, ça veut dire, en fait, les devs, c'est des pisseurs de code, en fait. C'est des mecs qui sont derrière un ordi, qui pissent du code toute la journée, qui ne réfléchissent pas et qui n'ont aucune analyse. En gros, c'est ça, quoi.
Ouais, après, voilà. Attention, parce que t'as plein de grosses boîtes, tu vois, et c'est littéralement ce qu'on leur demande. Hein.
Dans ce cas, c'est triste. Alors oui, là, clairement, ça va être remplacé, ça, on est d'accord, et tant mieux, parce que c'est pas un métier, enfin, pour eux, c'est le quotidien, il doit pas être drôle. Après, c'est clair que le contexte, une IA, pour qu'elle te sorte quelque chose de viable, en fait, il y a un contexte qui est super important, bien lui expliquer les choses, tout ça. C'est ce qu'aujourd'hui, en fait, les clients, les chefs, les responsables marketing, tout ça, sont incapables de faire, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi comme moi, on sait très bien que les clients ne savent pas exprimer leurs besoins. Donc,
là-dessus, moi, je suis super confiant là-dessus. Ça, c'est clair.
Voilà. C'est-à-dire, je veux un site à l'IA, elle ne te sortira jamais un site, quoi.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, là-dessus, tu vois, je suis super serein. Après, en fait, il y a une sorte de mythe d'extrême graal où, en fait, le marketing rêve de s'affranchir des devs, parce que le dev, il est casse-couille, il parle pas, il a pas envie de parler, il faut tout lui écrire, il comprend rien, il sait pas se vendre, tout. Donc en fait ça le saoule, et donc le marketing ou le commerce dit non mais nous on n'a pas besoin, on a une machine qui est meilleure, on n'a pas besoin de gérer de l'humain, tout. Ouais, sauf que quand il y a un bug, le mec, il a « Ah, ça marche pas, vas-y, il faut que tu débugues et tout. » Donc, au final, c'est une sorte d'arlésienne, tu vois, de rêve ultime où les commerciaux ou les marketeurs peuvent s'affranchir des devs. Donc, pour moi, c'est de l'idéologie. Ils rêvent de ça, mais ça n'arrivera pas parce qu'ils auront toujours besoin de... Parce que y aura des bugs, il y aura des trucs qui déconnent. Et il faudra refine, tu vois. Et à un moment donné, non, j'y crois pas. Peut-être que je changerai mon point de vue dans 2 ans, dans 6 mois, peut-être, ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis plutôt confiant. Je suis plutôt très, très confiant sur notre métier. Donc, voilà, peut-être que, peut-être que peut-être bon, que
on
ça
est d'accord.
changera.
On
est en phase,
est
Patrick.
d'accord.
On est en phase.
Ouais, on est en phase parce que effectivement, il y aura toujours besoin. Je pense que ça va pas remplacer. Par contre, c'est clair qu'on va, on l'utilise déjà tous les deux. Et d'autres devs, enfin, tout, j'espère que ceux qui nous écoutent l'utilisent déjà au quotidien.
Ouais.
Et je pense que on va. En fait, c'est des personnes qui vont savoir utiliser l'IA, interpréter ce qu'on leur demande de faire, tout ça, machin, qu'on va avoir dans le futur. Quoi.
Ouais. Par contre, attention, je pense qu'il y a, il y a aussi un autre danger pour les devs juniors d'arriver trop vite, trop tôt sur de l'IA et d'utiliser la baguette magique IA ou Copilot, Super Maven ou ce que tu veux. Et attention, il faut quand même comprendre ce que ton IA te pisse, tu vois, pour le coup, parce que sinon, si tu comprends pas ce qu'elle t'écrit, là, tu es en mode mystique total, quoi. Et là, beaucoup, beaucoup plus dangereux.
Ah, c'est
quoi.
Clair. Faut pas qu'on se retrouve. Tu sais, c'est un peu comme il y a des profs qui disent que, enfin, il y a des exemples de professeurs tout ça qui donnent des devoirs rendus avec le prompt, la fin du prompt. Est-ce que ça vous convient? Enfin, je sais plus ce qu'il met ChatGPT à la fin, mais tu sais,
Les
gars, ils font copier-coller, même pas y réfléchir.
Danger.
Il y a en ce moment, il y a aussi un truc sur Twitter aussi. En ce moment, sur Twitter, t'as des mecs qui montrent leurs enfants de 8-10 ans, tu vois, ce qu'ils sont capables de faire avec Cursor ou des choses comme ça, en fait, en ayant très peu de notions de code, en fait.
Ouais. Alors,
c'est assez bluffant. Je pense que c'est quand même des enfants qui sont quand même avancés, qui ont... Enfin, ils ont papa qui fait du dev, donc peut-être ça les a aidés aussi un petit peu. Mais c'est, tu vois, ça aide beaucoup quand même. C'est un vrai support. Quoi. Enfin, je pense qu'on en redébattra dans le futur.
Carrément. Allez, on déroule. Passe sur la suite, la grosse partie. Il y a eu une grosse conf Laravel. Alors, tous les ans, il y a une conf qui s'appelle la Laracon US. Je ne sais pas s'il y a une Europe aussi ou pas.
Oui, il y en a plusieurs.
Okay.
Il y en a sur plusieurs continents. Mais la US, qui est fin août, début septembre, c'est la grosse conf, la grosse keynote où il y a des nouveautés, etc. Chaque année.
Ok.
Il y a des lancements de versions, même des fois en live, tout ça. La LiveWire, l'année dernière, la V3 avait été lancée en présentation.
Ok. Alors, pour le coup, moi, je suis beaucoup, beaucoup moins présent sur l'écosystème PHP, même si tu m'as déjà montré des trucs sur un workshop qui c'est hallucinant et c'est hyper bluffant sur la rapidité avec laquelle tu peux déployer, intégrer. Et moi, ce qui m'avait bluffé, c'est vraiment l'interaction entre le back et ton front JS avec ton interactivité qui est câblée directement out of the box, quoi. Et donc, ça m'avait vraiment bluffé. Si on peut résumer un peu, c'est quoi les meilleurs trucs qui sont sortis de cette LaraConf?
Les gros points forts, alors on va y aller. Alors la première chose, c'est une extension officielle VS Code pour Laravel. Donc voilà, il y en a une, officielle. Donc avec autocomplete, tout ça. Il y a un système d'intégration au niveau des tests où ça va te tester, ça va te marquer de suite en dessous si c'est bon ou pas. Des diagnostics, de l'aide aussi pour le code s'il y a des erreurs. Enfin voilà, c'est une extension officielle pour VS Code. Donc ça, c'est cool pour pouvoir développer. Donc dispo d'ici fin de l'année 2024. Donc, meilleure expérience développeur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a Inertia qui est en V2 avec pas mal de nouveautés. Dispo en octobre aussi, ça, Inertia. Donc Inertia, c'est pour résumer, c'est alors ça existe aussi sur d'autres frameworks, hein. Inertia, c'est pas que sur Laravel. Donc en fait, c'est un système qui fait un mix entre le back et le front. Donc devant, c'est du React, du ce que tu veux, derrière c'est du Laravel ou autre, et en fait ça t'injecte automatiquement les props dans tes components au chargement de la page. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire du fetch, machin, tout ça. Ta page arrive, ton component, il a déjà les data à l'intérieur. En fait.
Ok, donc c'est une sorte de contrôleur intelligent directement qui vient binder en fait.
Ça rend le component déjà prêt avec les data, en fait. C'est assez impressionnant. J'ai essayé, c'est vraiment cool. Hein. D'ailleurs, on fera peut-être un workshop un de ces quatre.
Carrément.
Donc, nouveauté au niveau d'Inertia, c'est qu'on peut avoir des requests asynchrones maintenant. On peut avoir plusieurs. Avant, on pouvait avoir qu'une seule request. Maintenant, on peut en avoir plusieurs. Voilà, grosse nouveauté, tout le monde a l'air content. Il y a un système de pooling pour faire des... C'est de rafraîchir les data à un temps X.
Refresh.
Automatiquement. Ouais. Voilà, donc pour rafraîchir les data automatiquement. Il y a un nouveau component, ça s'appelle When Visible. Donc, ça charge les data quand le truc rentre dans le viewport. Donc ça, c'est, voilà, c'est intégré dans du React et tu intègres ton component. Donc c'est vraiment un mix, hein, PHP-JS. On a du coup l'infinite scroll qui marche avec ça. On a du prefetching au niveau des liens. Quand tu passes ta souris sur le lien, ça va prefetcher la page qui est pointée. Du defer, voilà. Il y a plein d'améliorations, en fait. Voilà. Donc la V2 d'Inertia. Inertia, c'est pas mal. Ensuite, grosse nouveauté, Laravel Cloud. Alors, pour ceux qui sont au courant, il y a déjà Laravel Forge qui existe, qui est un système pour gérer en fait des serveurs et déployer du Laravel automatiquement, etc. Sauf qu'avec Forge, tu vas brancher ton serveur que tu prends n'importe où, quoi. Ça peut être chez Infomaniac ou
c'est que du déploiement.
Ouais, ça gère vraiment que le déploiement. Il va prendre la main sur ton serveur, il va installer PHP, machin, tout ce qu'il faut, et après, il va déployer dessus. Mais c'est ton serveur. Laravel Cloud, on est plus proche d'un truc à la Vercel ou à la Netlify, ou même Gatsby Cloud, comme il y avait à l'époque.
Okay, en fait, tu as carrément tout. C'est une sorte de PaaS, quoi, une plateforme as a service où tu vas pouvoir déployer ton applicatif directement.
Voilà, tu peux déployer, il fait ton build, ou tout ça. Tu prends du serveur. Il fait ton build, tu te branches au repo, tu peux ajouter des DB, donc après tu payes la DB, machin. Mais là, tu ne gères plus le serveur. C'est vraiment tout intégré comme voilà, ça déploie. Machin. C'est du Vercel pour du PHP Laravel. Voilà. En gros.
Nice. Donc, super nice.
Ça a l'air pas mal du tout. Ouais. Et hyper efficace. Il faisait voir un déploiement en 25 secondes là, sur scène. Enfin, c'est bluffant. Quoi.
Propre.
Voilà. Ensuite, on a Pest. Pest, c'est un système de test pour voilà, PHP. Qui est beaucoup utilisé sur Laravel. Donc ça, c'est version 3. Tu l'as peut-être pas sur le browser. Voilà, des nouveautés. Il y a un truc intéressant sur Pest, en fait, c'est ils ont rajouté un truc où tu peux tu peux mettre des filtres, des tags par rapport au PR, à la personne où c'est assigné, tout ça. Tu vois ? Donc tu fais dans ton fichier de test. Et ensuite, quand tu vas lancer tes tests, tu peux dire « Je veux que les tests de la pull request 1 » comme ça, et il va lancer que ces tests-là. Donc en fait, c'est...
C'est un environnement de test un peu intelligent, spécifique, où en fait, il va isoler... en fait, au lieu de relancer toute la batterie de tests, en fait, il va te dire, OK, les fichiers qui sont impactés par cette PR sont ça, les fichiers qui sont dans ce scope de cette PR et les tests qui sont dans ce scope de PR sont les suivants, donc je ne vais exécuter que ça, parce que alors c'est à la fois dangereux, enfin sur le papier moi ça me fait un peu peur, parce que tu dis parfois tu peux avoir des effets collatéraux, tu vois, des effets de bord où pour le coup ils sont pas testés sur l'exemple complet, mais ça peut quand même te faire gagner du temps et peut-être 80% des tests échoue là-dessus, et donc tu es beaucoup plus rapide. C'est smart.
Bah disons que ta PR, si tu as un système de test automatique, tout ça pour déployer, CI/CD, il va lancer que pour cette PR, donc cette story, si vous faites des gestions de projet, et donc les tests vont passer, et après le reste, ça sera quand ça sera déployé sur le staging ou un truc comme ça. Mais j'étais surpris de voir ça, c'est intéressant.
Ça paraît assez simple, mais efficace, quoi.
C'est pas mal, fallait y penser. Ensuite, on a Pinkari. Alors, Pinkari, c'est un système. j'ai fait ma page, j'avais pas encore de page Pinkari, donc j'ai créé. Pinkari, c'est un système qui est entre Twitter, Linktree, etc. Donc, on fait sa page, son profil, et après, on peut mettre des messages, tout ça. Ils l'ont rendu open source. Alors, il marche avec Laravel, Livewire derrière, tout ça. Tailwind, tout ça. Et donc, ils l'ont rendu open source. Donc, le code est totalement open source. On peut aller voir le repo, etc., faire des contributions. Et en même temps, on peut aussi faire notre page de profil. Tu mets un message.
Je sais pas si tu peux. Il faut que je me logue. Nul.
Voilà, okay. Donc c'est une sorte de réseau social pour les devs. Avec des liens, échanger, suivre des gens, etc. Donc, c'est pas mal. Et surtout, c'est open source, le code. Donc, c'est cool. Ça change de tout.
C'est un mix Linktree Twitter, quoi. Ok.
Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. Linktree Twitter. Ouais.
D'accord.
Ouais, c'est cool. Et dernier truc, la Livewire Flux. Donc, une grosse nouveauté au niveau de Livewire. Donc, c'est des components, c'est une librairie de components qui fonctionne avec Livewire. Basé sur Tailwind, sur AlpineJS, on a Livewire, tout ça. Quoi. Hyper bien fait, j'ai regardé la vidéo complète là. C'est assez poussé Alors, première chose, c'est le design en fait des components. Il a été fait par un Français. Alors, je ne connaissais pas cette
et
personne.
C'est pas lui qui a bossé sur ChatCN ou sur Nux2i parce qu'ils ont tous la même gueule. Enfin, je veux pas faire mon troll. Hein. Je veux vraiment pas faire mon troll. Mais j'ai l'impression que ces composants, tout se ressemble. Quoi, tu vois, c'est un truc de ouf. Après, voilà, c'est peut-être le standard.
C'est Hugo Sainte-Marie, il s'appelle. Okay. Il est à Lyon, je crois. Tu vois, il y a son nom en bas, Hugo Sainte-Marie. Donc. Ouais, c'est cool, quoi, déjà.
Non, mais c'est super propre.
Il bosse sur les components.
C'est,
et après, c'est hyper propre. Alors, il a. Donc, la présentation, elle est super bluffante. Je l'ai regardée entière. Et ensuite, a priori, il y a eu des réactions. Parce qu'en fait, cette librairie va être payante. Bon, 99 dollars.
Je vois, pré-order. C'est pré-order. Il a enlevé la page. Pré-order.
Ouais, mais il a enlevé parce que justement, avant, il y avait le prix, machin, etc. Il l'a enlevé, là, pour l'instant, parce que ça a fait un petit peu polémique de pourquoi c'est payant, machin, bidule. Donc, il a fait une vidéo directement le lendemain de son hôtel pour expliquer pourquoi c'était payant, etc. Que c'était pas une simple librairie où on a mis un peu de style, etc. Et ça va vraiment beaucoup plus loin. Elle est très complète. Il y a beaucoup de components. Il a recréé carrément, il y a du web component derrière, donc il y a des choses qui sont recréées comme le switch, etc., qui sont intégrées via des web components. Enfin, ça va très très loin. Il y a des formulaires d'input avec des masques, etc. Il y a plein de choses, mais c'est très très vaste. Donc ça demandait énormément de travail. Et il explique que,
et on est d'accord que et que la grosse particularité, c'est que elle est intégrée directement à la Laravel. Et donc, en fait, tout est bindé. C'est vraiment ça, la grosse plus-value de cette librairie, c'est qu'elle est, elle est connectée directement à LiveWire et donc
Oui et non. En fait, tu l'utilises en fait comme... en fait, tu continues à binder avec ton modèle tout ça, dans ton attribut. Je ne sais pas si tu te souviens du workshop, mais tu mets un modèle ou des choses comme ça.
Oui.
Donc, tu continues à binder tes choses dans ta vue. Sauf que là, c'est des flux de points avec le nom du component, etc. Alors derrière, c'est du Tailwind, donc tu peux rajouter des classes Tailwind. Il y a plein d'attributs que tu peux mettre. Enfin, c'est assez... Franchement, je recommande de regarder la vidéo là, sur la présentation. C'est assez
bluffant.
Il y a vraiment beaucoup d'options. Ouais, c'est bluffant. Il y a beaucoup d'options. Il te fait un dashboard très rapidement. Franchement, le travail, il est phénoménal. J'imagine qu'il a passé énormément d'heures dessus. Il n'avait pas mis en alpha, il l'avait mis juste en test avec des personnes qu'il avait choisies. Franchement, pour le prix qu'il demande, 100 dollars, c'est vraiment pas grand-chose pour le temps qu'on peut gagner sur des projets avec ce genre de librairie et qui est très, très bien faite en plus. Donc, en plus, qui est accessible. Au niveau accessibilité, elle est totalement accessible. Enfin, c'est... Voilà. Donc, je ne sais pas. Moi, ça ne me choque pas.
Mais non.
Mais,
après, tu vois...
À un moment donné, il faut que le travail soit payé, quoi.
J'ai un peu une tendance, là. Je trouve qu'il y a un peu trop de... Une tendance à la pince. où, en fait... Personne veut sortir la carte bleue, mais tout le monde veut se faire payer 500, 600, 700, 800, 900 balles jour en étant développeur. Mais je veux pas payer mon logiciel, je veux pas payer ma librairie parce que en fait, je construis avec des matériaux gratuits et moi je me vends 700, 800 la journée, tu vois. Et donc en fait, j'ai un peu du mal avec ce système là. Je considère qu'en tant que développeur, on est quand même plutôt bien payé, même dans les salariés. Peut-être modulo, les juniors et tout ça, je l'admets. Mais dans l'ensemble, on va dire sociétalement parlant, on est quand même plutôt très bien payé. On amène quand même beaucoup de valeur sur le marché. On amène quelque chose. Utiliser une librairie à 100 balles pour nous faire gagner taquet de temps et pour avoir augmenté la qualité intrinsèque du résultat final, les gars, faut pas être pince, quoi. Enfin, tu vois. Donc, j'ai un peu du mal avec ce tout gratuit, tout disponible, tout pour moi. Enfin, je trouve ça un peu égoïste, en fait, pour être totalement transparent sur mon ressenti. C'est que, ouais, à un moment donné, mec, tu fais de l'argent, tu fais du business. Et tu utilises des outils que des mecs ont codés gratuitement parfois sur de l'open source. Je pense voilà, à Nuxt qui font un travail formidable. C'est tout open source. Ok, ben à un moment donné, quand il y a une librairie qui sort et qui est payante, ben, ouais, si ça t'aide, 100 balles, c'est rien. 100 balles, c'est rien. Faut arrêter, quoi. Donc, ouais, je suis un
Ouais.
peu.
Non, on est d'accord et enfin en fait tous les deux on fait de l'open source et c'est vrai que enfin pas au niveau de Livewire Flux ou ça, des choses comme ça mais c'est vrai que moi je prends mon exemple quand je travaille sur des choses open source que ce soit pour WordPress ou n'importe quoi pendant ce temps-là je travaille pas et je facture pas donc je gagne pas d'argent donc
Ben.
il faut comprendre qu'en fait, les gens qui développent de l'open source, ils ne gagnent pas d'argent, en fait. Donc, à un moment donné, s'ils demandent un petit peu d'argent, donc il y a différentes façons. Hein. Il y en a qui font des formations en ligne, des choses comme ça. Bon, là, ils font des components qui sont payants. Bah, il faut savoir, à un moment donné, rétribuer et récompenser les gens qui font de l'open source, quoi. Enfin, on est d'accord, de toute façon. Il n'y a pas à débattre.
Exactement, il y a pas, y a, pour moi, il n'y a vraiment pas débat. 100 balles, c'est peanuts. Soyez pas radins, les gars, soyez pas radins. Allez, on passe sur Vinci. C'est quoi exactement? C'est un espèce de framework, c'est quoi exactement ce truc?
Alors, c'est un socle pour développer des frameworks JS, en fait. Donc, c'est basé avec Vite et Nitro. Nitro que tu affectionnes. Et voilà. Donc, c'est pas très vieux comme système. Et il y a déjà des frameworks qui sont basés là-dessus. Je crois qu'il y a Solid qui est basé là-dessus. Il y a Analog, je crois aussi. Voilà.
Ok.
Et c'est justement le graphe, en fait, qui suit là. C'est le WebKO. Il y a un mec qui a fait un graphe. Avec les différentes dépendances, en fait. Donc, il a fait ça sur un repo GitHub avec Excalibur. Donc, on peut contribuer pour corriger s'il y a des choses qui ne sont pas justes, etc. Donc, ça sort ce graphe via Excalibur. Et donc, on voit en fait les différents frameworks, qu'est-ce que ça utilise derrière, en quoi voilà, on voit que Vite est très présent dans pas mal de frameworks. Est-ce qu'il y a Babel encore dans certains frameworks, etc. Voilà, il y a Rollup, etc. Donc, c'est vraiment intéressant comme graphe. On voit vraiment les dépendances, qui fait quoi, qui a quoi derrière. Et bon, on voit que ça se standardise quand même pas mal par rapport à quelques années. Webpack est encore utilisé dans quelques frameworks. Je pense qu'il y a des erreurs, tu vois, parce que lui, Vinci, il le met sur plusieurs frameworks. Ou alors, je ne sais pas lire son graphe, mais il ne me semble pas qu'il soit présent sur autant de frameworks. Donc, voilà.
D'accord. Mais la question, c'est est-ce qu'on a besoin d'un nouveau framework encore? Non,
Ça, c'est clair.
je suis un peu taquin, mais c'est vrai que devant la multitude de frameworks, et je comprends en fait que chaque framework a un prisme de lecture en disant voilà, nous on va faire un truc SSR first, nous on va faire server side first, nous on va faire. Voilà, on va avoir des micro-ajustements et ils vont construire sur ce prisme-là. Et parfois, ça amène une difficulté de dire wow, mais par quoi on commence, par quoi on part, sur quoi on part, qu'est-ce que c'était. Tu veux, quand je vois un graphe comme ça là, sur ce projet-là de WebKO graphe, moi ce que je comprends c'est chaos quoi. Tu dis waouh, mais en fait maintenant pour faire du un, pour faire un pardon pour faire un applicatif, tu es obligé sur du web de maîtriser tout ça. Et tu fais mais waouh, c'est quand à quel moment en fait on essaye de simplifier les choses et de faire un truc simple à l'usage. Parce que là c'est ouais, alors je fais du Next, donc c'est du Next, du React, donc il faut comprendre vite, mais il faut que j'utilise aussi le TS avec le bundle de rollup de biome de machin. T'es là mais tu fais waouh, hey, c'est méga complexe, vas-y, moi je veux juste faire une app quoi, tu vois. Si tu veux, quand je vois ça me rappelle que parfois on est bien loin de la simplicité, quoi. Et donc, ça reboucle sur Laravel ou sur des solutions comme ça qui sont out of the box et, ou Rails. Tu vois, Rails, Laravel, c'est un peu la même philosophie. C'est one tools et deploy, quoi. Bim, terminé. Pff, simple. Mm. Et c'est un peu ce que je regrette sur tout l'écosystème JS. C'est devenu des usines à gaz, mais un truc de maboule, quoi. C'est vraiment des usines à gaz totales. Ah.
Ouais, après derrière, tu vois, bon, après, c'est toutes les technos qui sont derrière, mais toi quand tu fais du Next ou quand on fait du Next, on n'a pas à se soucier de ces outils-là, en fait. C'est devenu quand même. Enfin, les choses se sont quand même vraiment beaucoup simplifiées par rapport à il y a quelques années où tu étais obligé de rajouter du Babel et compagnie, de compiler, machin, tout ça. Aujourd'hui, ouais. C'est quand même beaucoup plus facile et transparent. Les devs qui arrivent sur des frameworks modernes, ils ne doivent pas comprendre quand on leur dit la JS fatigue, tout ça, en fait, parce que c'est beaucoup plus simple avec TypeScript, tout ça. Mais c'est vrai que derrière, tous les outils comme LiveWire, tout ça, ou Ruby on Rails, c'est tellement plus simple. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, alors, petit truc privé, mais cette nuit, j'ai rêvé que je faisais du Ruby on Rails. Ouais. C'est assez bizarre parce que j'en ai jamais fait de ma vie. Donc, c'est chelou, c'est peut-être un signe. Peut-être
je m'en mais c'est DHH, il a réussi à envoûter ton cerveau, tout. Et donc, tu vas rentrer dans la secte DHH. Fou,
quoi, du Ruby, quoi. Je me suis dit, mais comment je vais faire du Ruby? Je ne sais pas en faire.
Je ne sais pas faire, c'est pas possible. C'est pas possible.
Non, en petit aparté, en parlant de simplification, alors j'avais pas mis ça dans les notes, mais j'en avais déjà parlé il y a un petit moment, mais je vais parler vite fait de WordPress. En fait, WordPress, ils ont développé un système qui s'appelle l'Interactivity API. Et en fait, c'est un système qui ressemble à LiveWire, où tu vas mettre des attributs dans tes tags HTML et ça va rendre tes éléments interactifs. Et après, tu as un store qui partage différents states, des fonctions, etc. Moi, j'ai commencé à l'utiliser, c'est vraiment pas mal. Et le principe, en fait, de pourquoi ils ont créé ça, en fait, c'est justement de faire le minimum de JavaScript envoyé dans le navigateur. Donc, en fait, la librairie de base, elle est très légère, elle fait 10-20 KO. Et après, tu peux rendre tes éléments interactifs et c'est assez puissant, en fait. Et derrière, en fait, il faut savoir que c'est du pré-act, en fait, qui fonctionne. Donc, c'est à la fois moderne, facile à utiliser. Enfin, c'est assez puissant. Moi, j'ai pris le truc en main. Donc, je me suis amusé à faire pas mal de choses avec cet été.
Et ça serait pas le futur de WordPress, hein?
Ah oui, complètement. C'est au niveau front, okay. C'est le futur de WordPress, puisqu'on fait des blocs interactifs avec ce système. Sans rajouter de librairie, etc., pour faire ça. Et franchement, c'est assez puissant. Moi, j'ai trouvé vraiment bien fait, bien pensé, etc. Donc, tu vois, on va vraiment quand même dans la simplification de pas mal de choses et l'allègement aussi du JavaScript, tout ça. On envoie de moins en moins de JavaScript. Je vois que la philosophie de tous les gros major frameworks, tout ça, est dans le même esprit. Donc, voilà. Nice. On va dans du bon, là.
Est-ce qu'on va dans du bon quand on découvre que Elasticsearch en fait fait un blog post pour nous dire en fait il est open source again? Et en fait moi quand je vois again c'est déjà attends, mais en fait il n'était pas open source, maintenant il revient open source. Ça me rappelle le Redis drama qu'il y a eu en disant non mais c'est pas tout à fait open source machin tout. C'est quoi un peu ce truc, t'as un peu poncé le sujet ou?
Bah écoute, comme tout le monde, moi j'ai vu ce titre Elasticsearch redevient open source, donc je me suis dit tiens, ok. Bah déjà je savais pas que c'était plus open source. Bon, en même temps, je suis pas un gros utilisateur d'Elasticsearch, donc bon ça c'est normal. Mais du coup j'ai fouillé un petit peu derrière ce titre en fait un petit peu racoleur putaclic quoi, on peut le dire. et en fait là, alors l'histoire en fait c'est qu'en 2021 la société qui gère Elastic, donc ça s'appelle Elastic la société qui gère tout cette stack Elastic. Ils avaient changé la licence en fait, parce qu'en fait principalement AWS, mais tous les fournisseurs en fait de cloud tout ça là utilisaient en fait cette stack pour faire de l'argent et ça revenait pas à la société Elastic. Ils modifiaient le code, etc., machin bidule. Et ça leur plaisait pas, donc ils ont changé la licence et ça obligeait la licence qu'ils ont choisie c'était la SSPL qui donnait droit accès au code source. De créer des tickets, soumettre des PR, tout ça, mais ça interdisait la modification et l'utilisation dans les clouds et tout ça. et on pouvait pas redistribuer sauf si tu avais un partenariat. Donc tu vois, ils avaient vraiment changé la licence pour verrouiller le truc. Sauf que entre temps, AWS, pas con les mecs, ils ont créé une fork de Elasticsearch 7.10.
Ils sont forts.
Voilà, qui s'appelle OpenSearch. Donc ils ont dit OK, change de licence, on va faire un fork, on fait OpenSearch, pas de problème. Et sauf que voilà, je pense qu'en fait, sur le long terme, en fait, ça a pas, bah, Elastic s'est retrouvé un peu con parce que ils n'utilisaient plus la stack Elastic, ils avaient OpenSearch chez AWS, tout ça. Donc finalement, alors ils disent que depuis ce temps, depuis en 4 ans là, le partenariat avec Amazon s'est vraiment
détendu,
bien fondé, tout ça, et que maintenant ça marche bien. Ouais. Détendu et que ça marche mieux le partenariat, mais moi je pense que c'est plutôt un aveu d'échec en fait, que en changeant cette licence ils pensaient faire de l'argent et que ça n'a pas si bien marché et que là ils reviennent en fait sur une licence qui est AGPLv3. Voilà, alors je suis pas un spécialiste des licences, mais c'est une licence qui redevient un peu open source plus ou moins entre guillemets, mais voilà, c'est, pour moi c'est plutôt un aveu d'échec, j'ai l'impression. Après je suis pas, voilà, je sais pas ce que vous pouvez mettez votre avis dans les commentaires, mais
ouais.
En gros, ils ont essayé de faire de l'argent sur AWS et puis ça n'a peut-être pas trop marché.
Bon, en même temps, en phase 2, ils se frottent à des mecs un peu solides qui, quoi qu'on en dise, ils ont quand même de la ressource de dev. Ok, on fait un fork, nous on met 2 ou 3 mecs qu'on paye 200 000 à l'année, des cerveaux bien faits là, et ils vont défoncer le projet, quoi. Donc c'est clair. Après Elasticsearch, c'est pas uniquement un moteur de recherche, hein, c'est vraiment toute une stack sur les logs, sur les dashboards, sur les choses comme ça. C'est beaucoup plus complexe, enfin il y a vraiment tout un écosystème, même si le cœur à la base en fait c'était le moteur de recherche super rapide. Et sinon, pour faire que du moteur de recherche super rapide, je vous rappelle qu'il y a Melisearch. Hein.
Melisearch.
je dis ça, je dis rien, mais Melisearch quand même. Hein. Melisearch. Donc intéressant. Mais ce qui est sûr, c'est que ça nous prouve bien que l'écosystème open source et business, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué et surtout, c'est des équilibres précaires, je trouve. Et là, on le voit bien avec Redis, on l'a vu, on le voit avec Elasticsearch qui fait un rollback un peu, ça revient un peu en arrière en disant ouais, peut-être que, en fait, non, on s'est peut-être trompé et tout. Voilà, ça fait partie du jeu de tout cet écosystème.
Après, moi, justement, on en parlait juste avant avec LiveWire Flux, là, mais moi, je comprends hein, la position d'Elastic. Quand tu vois AWS qui annonce toujours tous les ans des milliards de bénéfices, etc., et te dire qu'en fait, leur business repose sur beaucoup d'éléments open source, donc qu'ils prennent les éléments open source, après, c'est le principe d'open source, hein, mais voilà, leur business repose sur des choses open source, et des gens qui travaillent gratuitement, entre guillemets, sur de l'open source, et AWS fait des milliards dessus. Je comprends leur position et je comprends pourquoi ils ont voulu faire ça.
Ouais, après, c'est toujours compliqué parce que en fait, on revient sur ce même délire de qui fait de l'argent, tu vois. Au final, en fait, c'est le mec qui vend des serveurs. Lui, il vend des serveurs. Il vend pas la technologie, mais il utilise la technologie pour vendre ses serveurs. Mais son cœur de métier, c'est il vend des serveurs. Donc lui, il va te dire non, mais moi la techno, tu vois, moi je vends des serveurs, je vends pas la techno, tu vois. C'est là toute la subtilité, mais je pense que le gros problème, c'est la disproportion qu'il y a entre les deux, tu vois. Amazon gagne beaucoup 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 et le créateur de solutions open source gagne pas assez. Donc en fait, le problème est là, et s'il met une licence payante, il n'y aura plus personne qui va utiliser sa techno. Tu vois, donc, c'est toujours une question de proportion. C'est compliqué, quoi. Toujours compliqué.
Après, ce n'est pas les premiers à faire ça, à changer de licence, etc. Et ce ne sera pas les derniers parce que, oui, les contributeurs, les personnes qui font de l'open source, ils ont toujours du mal à en vivre. On a eu pas mal dans le podcast, on a eu pas mal de personnes qui ont lancé des choses open source comme Strapi, tout ça, ou même Nux, ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut trouver le business model qui fait que tu vas en vivre, quoi, de ton open source. Donc, c'est jamais évident, quoi. Et c'est vrai que ça peut faire râler de voir, tu fais un produit open source qui est utilisé dans des millions de services, et puis toi, à la fin du mois, tu manges des pâtes, quoi. Donc, je comprends qu'à un moment donné, Les mecs qui pètent des câbles, quoi.
Ouais, normal, ouais. Normal. Allez, en mode, je pense que chez Vercel, ils ne mangent pas des pâtes.
Non.
Mais c'est possible aussi qu'ils aient fait un espèce de rollback, un peu de machine arrière, avec leur introduction de Vercel Marketplace. Donc, il y a quasiment un an, ils avaient fait, en fait, une intégration de Néon sous marque blanche. En fait, c'était un truc qui s'appelait Vercel Postgres. Ils avaient fait un Vercel KV pour un clé valeur qui n'était autre en fait que une connexion directe à Upstash, un autre service, et c'était vraiment totalement en marque blanche. Et là maintenant ils reviennent avec une sorte de marketplace où en fait t'as tout intégré, mais c'est différent, c'est plus sous leur nom, ils changent un petit peu leur modèle. Il y a une sorte de mix entre les deux. Ce que je comprends, c'est que déjà, il y a plus d'acteurs, mais ouais. En fait, Vercel Postgres s'arrête et transitionne vers Néon directement. Je pense que, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu machine arrière, c'est pour introduire en fait plus d'acteurs, quoi. Et donc d'où le nom, ouais, de marketplace, quoi.
Ouais, c'est ça en fait. Il y a eu beaucoup de critiques quand ils avaient lancé le service, puisqu'en fait au début ils avaient présenté ça, voilà, des solutions de DB, tout ça machin, et après derrière on avait appris que c'était Upstage tout ça qui gérait le truc, et en fait les gens avaient commencé à comparer les prix entre Upstage ou KV,
ah bah ouais,
tu vois, en disant
pas
mais
le même,
c'est quoi
tarot.
C'est trois fois plus cher, c'est quoi cette arnaque, ouais. Enfin, alors que c'est le même service. Donc ils ont entendu, ils ont dit ouais, on a compris vos remarques, machin, machin. Et donc voilà, ils ont sorti un marketplace avec différents acteurs de DB. Donc j'imagine qu'ils font des partenariats ou voilà, ils rétribuent. J'imagine que Supabase rétribue à Vercel. Enfin, je sais pas comment ça marche, mais il y a sûrement un truc comme ça, tu vois. Et donc voilà, donc ils ont effectivement transitionné de Postgres Vercel vers Néon et Upstage. En fait, on n'aura plus les trucs Vercel KV et tout ça. Ça sera directement dans le marketplace. Et donc, on a Supabase, Redis qui rentre, HDB, enfin, voilà. Tous des super trucs modernes.
Et nice. Ouais, après, c'est voilà, ce qui s'entend parfaitement et plutôt... Peut-être que c'est un système peut-être un petit peu plus équitable pour les services, en fait, tu vois. Et mais surtout, je pense surtout que l'avantage vient à Vercel, parce que en gardant Vercel Postgres ou KV, ils sont limités, ils n'utilisent que ça, que en créant une marketplace, tous les acteurs, n'importe qui a un service cloud pourra peut-être à terme s'intégrer avec Vercel directement, moyennant une commission, évidemment, je suppute, je pense. Que... Mais
ah oui, c'est sûr.
Mais en tout cas, il y a une intégration qui est plutôt propre, et donc potentiellement, ça peut aussi permettre de découvrir ce qui est déjà fait. Après, il y a déjà ce système d'intégration avec Vercel. Par contre, l'intégration est plus que minime, voilà, il y a juste une connexion qui est faite entre le service, je pense par exemple à Axiom pour les logs, parce que c'est un truc que j'utilise, voilà, tous tes logs en fait sont envoyés directement sur Axiom depuis Vercel, ok, mais c'est juste une intégration, quoi. Là, la marketplace, c'est tu restes dans Vercel et tu as tout le dashboard en fait dans Vercel, quoi. Donc c'est une intégration bien plus poussée.
Yes.
Intéressant, ça, intéressant. Super intéressant aussi pour les développeurs qui font du Vue. Je lève la main. Je me considère parce que la version de V0, donc V0 en fait c'est l'IA qui va nous permettre de pondre des composants directement depuis un prompt, et maintenant c'est officiel, ça permet V0 gère et supporte les composants Vue. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle, parce qu'on peut utiliser V0, ouais, pour créer nos propres composants. Donc, il y a peut-être un mix à trouver entre Cursor, V0, les trucs intéressants, quoi.
Ouais, grave. Non, ouais, c'est cool. Ça faisait que du React jusqu'à maintenant. Maintenant, ils font du Vue. Par contre, il faut aller sur la version chat, parce que quand tu vas dans v0.dev, en fait, il te dit qu'il faut aller sur chat, machin, pour générer du Vue. Parce que c'est encore, je pense, en bêta ou un truc comme ça.
Ah, ok, c'est pas. Ok, c'est, donc la, l'intégration n'est pas encore supra.
Je sais pas. En fait. Ouais, en fait, il te. Ouais, je crois que c'est pas totalement intégré ou il n'y a pas tout qui est pris en charge, mais ça fait déjà pas mal de choses. Tu peux tester, justement, j'ai testé le calculator là. Il m'a sorti un code. Alors le preview marchait pas, je sais pas pourquoi, mais.
Ok. Voilà.
Ça marche plus ou moins, quoi.
Bon, c'est quand même pas mal.
Là, t'es sur la home, donc. Là, si c'est sur la home, si tu testes calculator en vue, il va certainement te dire qu'il faut aller sur le chat.
Ouais, après, il faut que je me signe. Mais, ok. Nice.
Mais ça marche. En tout cas, j'ai testé, ça marche.
Ouais. Nice. Allez, autre chose pour dans l'écosystème vue. Nuxt a sorti un module officiel en fait, pour intégrer et faciliter l'intégration de scripts tiers dans, dans notre app. On en avait, je ne sais pas si on avait déjà parlé dans les épisodes précédents ou peut-être que c'était en bêta. Là, ils ont sorti tout un article un petit peu plus complet qui nous explique vraiment comment on peut intégrer des scripts tiers dans Vue, enfin dans Nuxt, pardon, et sans pour autant en fait péter toutes les stats, parce que souvent en fait c'est un gros problème quand on vient charger un script tiers, on récupère un gros paquet de merde et ça vient complètement péter les stats de les performances des core vitals de chargement de page et tout ça.
Ouais, complètement, ouais. Alors, on a déjà discuté, mais il y avait déjà un équivalent en Next, en fait, une balise de script, en fait, qui permettait justement de gérer à quel moment ça allait charger le script. Alors, j'ai l'impression que ce n'est pas autant poussé que Next Script, puisque là, tu peux vraiment charger même, tu me disais, au clic ou des choses comme ça. Donc c'est assez,
exactement.
C'est
en fait, t'as tout un système de hook, en fait, où tu dis, bah, en fait, à quel moment je vais le charger ? Est-ce que je vais le charger au clic ou à un événement, tu vois, quand je vais passer ma souris sur un élément, je vais charger le script et à ce moment-là, ça va... Voilà, donc j'ai un niveau de granulométrie qui est assez, assez poussé. Et puis après, je vais pouvoir aussi binder les éléments dans le script. Par exemple, si dans mon script, j'ai une fonction run ou go ou je ne sais pas quoi, bah en fait, je vais pouvoir utiliser à l'intérieur de mon JS, je vais pouvoir déconstruire ou enfin appeler la fonction directement du script que j'ai préalablement chargé, quoi. Donc, ça donne vraiment un niveau de granulométrique hyper, hyper, hyper précis. Et il y a tout un système de registerie qui, pour le coup, ça, c'est les trucs un peu officiels, mais c'est surtout des démos, en fait, où ils nous montrent comment ils ont fait pour intégrer le pixel Facebook, voilà, le truc qu'on connaît, Google Analytics, plausible, le Tag Manager ou des choses comme ça. Pareil pour ce qu'on utilise souvent aussi, c'est le paiement pour Stripe ou pour autre chose, YouTube aussi, où on va avoir des scripts tiers qui peuvent parfois être super lourds. Je pense au Google Maps ou YouTube. Là, en fait, on a des démos, donc ça nous permet de voir vraiment comment c'est intégré. Mais libre à nous d'intégrer ça avec n'importe quel script, quoi. Mais vraiment n'importe quel script. Donc ça, c'est très, 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 très puissant.
Très puissant, sauf que on a toujours des... Ils veulent toujours utiliser Google Tag Manager et, et là, t'es mort parce qu'ils t'injectent tous les scripts directement via le dashboard et tout et n'importe quoi.
après, le truc, c'est que si déjà, toi, tu maîtrises déjà un petit peu mieux ton pilotage, de à quel moment tu le charges, parce que potentiellement, oui, toi, tu te casses le cul à faire de la perf et puis derrière, t'as le marketing qui dit, vas-y, tu mets ça. Là, si au moins
c'est
tu peux...
Vécu.
Oui, c'est complètement du vécu, ouais. C'est complètement du vécu. Et pour le coup, t'as envie de l'emplâtrer et le mec, il comprend pas. Et toi, tu comprends pas qu'il comprend pas, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Si au moins tu peux maîtriser un petit peu plus à quel moment tu viens charger ton script avec les défers, les async sur un thread séparé, tout ça, c'est quand même vachement plus intéressant. C'est moins pire, en tout cas. Après, la pertinence du tag. Et souvent, en fait, tu te rends compte aussi que chez les marketeurs, ils utilisent Tag Manager, mais ils vont utiliser autre chose. Et en fait, au lieu de tout intégrer, ils le mettent deux ou trois fois, quoi. Et donc, en fait, parfois, tu as deux ou trois scripts qui sont totalement, qui sont redondants, en fait, qui sont totalement redondants. Donc ouais, c'est beaucoup moins intéressant. Mais on va y arriver à faire des trucs propres,
On
c'est possible.
voit que dans cet épisode, on voit qu'on aime le marketing.
Putain, je suis.
On
Eh
aime le
ouais,
service marketing.
on va se faire déglinguer par tous les marketeurs là.
Bon, de toute façon, ils nous écoutent pas, de toute façon, les
Non,
marketeurs,
c'est
donc
pas
c'est
faux,
pas
c'est pas
grave.
faux. C'est pas faux.
Il n'y a
Donc
pas de
voilà. Et
risque.
si. Pour le coup, vous les devs là, envoyez cet épisode aux marketeurs pour qu'ils nous trollent un peu, ça va nous faire rire. Donc voilà. Écoute, Patrick, top, on en reste là pour aujourd'hui.
Yes. Ouais,
Allez,
ça roule.
un grand merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. Ciao, salut, ciao, ciao.
Ciao.
Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.